pour cette table ronde, donc, dont le principal objectif est de lancer quelques pistes dans le temps qui nous est imparti pour tenter de cerner quelques approches sur la mondialisation culturelle donc du génocide des Tutsis au Rwanda, en accueillant, et merci beaucoup à eux d'être présents, trois artistes qui ont participé à l'opération du Fest Africa, Rwanda à écrire par devoir de mémoire en 1998. Alors, je présente très rapidement parce que peut-être il y en a parmi vous qui ne sont pas très familiers de ces artistes-là, mais simplement vous dire. Donc, nous avons d'abord Boubacar Boris Diop ici, qui est un artiste sénégalais qui a écrit dans le cadre de cette opération, donc Mourambi, le livre des ossements, qui est revenu sur la place du Rwanda dans son propre parcours, dans plusieurs articles et puis aussi beaucoup dans son essai L'Afrique au-delà du miroir en 2007. Je fais très vite. Koulsi Lamko, juste à côté de lui, donc, qui est né au Tchad, qui vit à présent au Mexique, qui a séjourné plusieurs années au Rwanda après 1998, puisqu'il a dirigé et fondé le centre culturel donc des arts de Butaré jusqu'en 2002. Nous avons eu la chance de pouvoir projeter son film récent Feeding Roots sur cette expérience mercredi, et puis Bruce Clark, d'origine sud-africaine, qui a aussi consacré donc dans le cadre de cette opération une recherche artistique, une œuvre, Le Jardin de la mémoire, et qui dans le cadre de la 20e commémoration a lancé tout un projet qui connaît un succès très important, Les Hommes Debout, dont il nous parlera. Alors, par rapport donc à cet événement, vous le voyez qu'il y a toujours une place importante dans la production artistique de ces artistes, donc des personnes qui sont présentes et dans leur parcours intellectuel. Catherine Cocchio, que je présente malgré tout quand même un tout petit peu, même si vous la connaissez certainement, donc qui enseigne ici la littérature comparée, qui est professeure, qui a beaucoup travaillé sur le génocide des Tutsis et qui a permis très largement sa réflexion en France en tout cas, nous parlera de ce qu'elle pressent comme étant possiblement une littérature de la honte, c'est-à-dire une veine qu'on peut remarquer dans la production occidentale contemporaine qui est en rapport avec le génocide des Tutsis au Rwanda, dans les fictions et dans les essais. Donc, cela nous permettra de mesurer les écarts de ces démarches en confrontant les points de vue. Donc, on va avoir une dizaine de minutes par interlocuteur. Voilà. Et donc, nous allons commencer par Koulsi Lamko, puis Bruce Clark, puis Boubacar Boris Diop, puis Catherine Cocchio.
Merci Virginie. Et puisqu'on n'a que 10 minutes, je vais plutôt faire des salam alek. Et puis, merci à Catherine Cocchio pour l'invitation, à François Robinet, à Eric Opno et à vous tous qui êtes là. Je crois qu'on constitue une espèce de confrérie sur cette question du Rwanda. Et je dirais, pour reprendre les termes maliens, c'est un grain. Je crois que ce qui est important dans ce que nous faisons, c'est qu'au-delà de toutes les opinions, au-delà de toutes les idéologies différentes que nous partageons, au moins sur cette thématique-là, nous sommes cette confrérie-là qui, malgré les ostracismes qu'on connaît, parce que quand on s'attaque à cette problématique, on en rencontre, nous continuons à résister ensemble, et je crois que c'est un exemple de fraternité à saluer. Je voudrais saluer aussi les frères et sœurs du Rwanda qui m'ont permis pendant 4 années de participer à leur poste douleur ou à leur douleur qui continue de vivre dans l'espace quotidien de chacun des membres de ce peuple-là. J'ai été invité en 1998 à séjourner là-bas par des amis comme Alice Karekesi, Valentine Rugwabiza, Émile Romasirabo, Kimonio qui est quelque part par ici. Et j'ai eu la chance pendant 4 années de participer à la reconstruction du Rwanda. C'est peut-être un gros mot. Là, c'est un peu difficile de raconter cette expérience-là. C'est une posture vraiment incommode. Parce qu'on a l'impression de faire le mille pattes qui, tout en marchant, doit savoir où il met le pied. Et du coup, je crois que dans ce cadre-là, tout se bloque et c'est un peu difficile de rendre un témoignage qui risquerait de faire de moi quelqu'un qui vit une schizophrénie. Mais bon, il faudra quand même pour le témoignage hein, le faire. Je crois que quand je suis arrivé en 98 au Rwanda, dans le cadre de Rwanda écrit par devoir de mémoire, cette expérience-là m'a laissé deviner dans les différents types d'échanges hein, avec les Rwandais et entre les Rwandais même, une espèce de mal-donne fréquente en ce qui concerne l'acte de communication. Et l'impression vague au début était assez vite devenue certitude. Il me semblait que les modalités de la réalisation de la parole étaient souvent biaisées dans leur actualisation et l'acte de communication souffrait dans sa destinée complète étant donné l'importance capitale du non-dit. Et les situations d'échange me semblaient énormément influencées par les différentes étapes psychologiques où l'affect prenait une part déterminante. Elle l'était tout aussi par la nature de la relation interlocuteur, les antagonismes de groupes amalgamés, victimes, bourreaux, autant que le statut social jouant à fond la partition du silence. Et les schémas de dialogue évitaient soigneusement toute inflexion polémique nécessaire aux échanges symétriques ou complémentaires positifs. Donc, à partir de ce moment-là, mon premier réflexe était de chercher un peu partout ailleurs. Et la réponse que j'ai eue, c'était celle très essentialiste hein, et qui nous vient de l'anthropologie victorienne, qui est de dire que ces peuples des Grands Lacs donc, avaient la tendance à la dissimulation. Et on évitait en fait, de dire que l'évidence était là. Il y avait quand même un peuple qui venait de vivre une immense tragédie qui a emporté chaque jour 10 000 personnes pendant 100 jours. Donc, le traumatisme était là, évident, et les effets psychologiques renvoyaient à ce non-dit-là. Le non-dit n'était pas la cause donc, du génocide, mais une réaction subséquente au traumatisme. Et je crois que ce constat a été important, et quand j'ai été invité, après Rwanda écrire par devoir de mémoire, à venir séjourner au Rwanda par ses amis dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, je n'ai pas du tout été dans une espèce de dilemme, parce qu'il me semblait, devoir aller jusqu'au bout de mon engagement de poète militant africain enraciné dans sa tradition. C'est-à-dire que la présence du tiers médian dans des cas de deuil et de douleur est très importante. Je parle de la tradition Sarambaï du sud du Tchad, mais que partagent aussi, je crois, beaucoup de communautés en Afrique. Il faut dire que la douleur, lorsqu'elle est foudroyante, appelle la nécessité d'un silence dans un premier temps. Ce silence-là n'est pas choisi, au contraire, il s'impose despotique, il est paralysant. En effet, le témoin, le rescapé, le survivant qui a vu périr un membre de sa famille, un membre de son groupe, est lui aussi arraché à la quiétude. La même violence emporte une partie intime de lui. Et le cri d'horreur hurlé face au drame est peut-être le premier son désarticulé du langage qui lui permet de sortir de la torpeur, de l'état de chosification. Ce cri primordial n'est autre que la tentative de récupération des zones émotionnelles détruites et arrachées par la violence de la mort. Ensuite, suit nécessairement le silence qui s'actualise dans différentes formes du non-dit. Et plus tard, ce sera alors dans l'organisation du cri de la douleur, dans l'élaboration d'un langage articulé par une poétique quelle qu'elle soit celle du témoignage, du récit fictionnel, de la poésie ou de l'expression artistique, que le rescapé commencera à trouver un début de résilience. Ce mot que nous a donné en legs Boris Cyrulnik. Mais le processus peut être long et lent et parfois voué à moult échecs successifs. Et je crois que c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la fonction résiliente, que, en tant que poète, en tant qu'artiste de théâtre, auteur et simplement en tant qu'humain, il me semblait important d'être aux côtés des frères et des sœurs du Rwanda. Cela en référence à cette nécessité que j'ai évoquée tout à l'heure, de ce que, je crois que je vais aller vite, donc je ne vais pas, je vous fais l'économie de ce qui se passe dans le pays Mbaye Moïsala quand on annonce un décès et quand les poètes arrivent, les chansonniers, les pleureuses, les musiciens, pour accompagner le voyage du défunt vers le village des morts. Et quand dans les membres de la famille directe, il y a cette espèce de rituel, c'est-à-dire qu'on s'applique au front, à la joue, une marque blanche au kaolin. Chez moi, la mort, elle s'exprime en blanc et non en noir. Et donc, dans ce cadre-là, il est aussi où il y a une proximité métonymique et symbolique à la fois pour signifier que les parents, les amis du mort sont dans l'espace aussi de la mort. Il y a la nécessité pour que le silence ou pour que le cri de douleur se transforme et qu'il évolue vers la résolution de cette même douleur. Il y a donc la nécessité du tiers médian qui est là pour dire aux membres de la famille éprouvée, tu es moi, écoute ce qui nous est arrivé de terrible à toi, à moi, je souffre avec toi, moi, j'accompagne toi, moi. Et ensuite, se met en branle pendant 3 ou 4 jours une immense représentation à dramatisation multiple, successive et continue, composée de tableaux, modules artistiques foisonnants, et des pleurs orchestrés soutenus par une musique particulière de tambour funéraire, des moments de détente, de beuverie parfois, de récital en joute poétique et de rituels d'interrogation du mort. Donc il y a nécessairement une théâtralisation des espaces funéraires et qui provoque par la distanciation qu'elle impose ce début de cri organisé qui est indispensable à la mise en route du deuil même. Dans ce cas-là, l'œuvre artistique agit lui aussi comme tiers médian dans le processus de reconstitution émotionnelle. Je suis resté pendant 4 années au Rwanda avec cet honneur-là qui m'a été fait de participer à la reconstruction, à la renaissance, je dirais, avec beaucoup, beaucoup de jeunes étudiants à l'époque, mais aussi avec, à Boutaré surtout, avec une contribution très importante du ministère de la Culture, de l'Université nationale du Rwanda, avec donc tout, je dirais, des femmes rescapées, avec des jeunes enfants de la rue et avec le tout Boutaré qui était soit avec nous sur une scène, soit de l'autre côté, puisque ce qui nous était exigé par le public, même quand on construisait des œuvres théâtrales ou quand il y avait des expositions, ce qui était exigé, c'est que tout le monde participe à la récréation de l'œuvre qui était proposée comme prétexte. Que dire d'autre pour aller vite, parce que Virginie me dira tout de suite que je n'ai plus que 2 minutes. Exactement. Donc, un centre universitaire des arts, vous en avez vu pour ceux qui étaient là il y a 2 jours, une espèce de condensé en images. Ce centre-là a été à l'origine de pas mal de vocations au niveau de jeunes étudiants qui aujourd'hui un peu partout s'expriment à travers différents types d'art. J'aurais voulu raconter des anecdotes surtout sur cet aspect-là de la mémoire, cette fonction mémorielle et historique de l'art. Surtout, c'est un moment mémorable que j'ai eu en compagnie de ces étudiants-là qui au-delà de la création artistique, voulaient réécrire l'histoire du Rwanda, reconstruire les mémoires individuelles et collectives en les faisant passer par le corps et par la voix. Il s'agissait donc de recomposer par le témoignage la véritable geste, une geste artistique. Et si j'ai en mémoire des moments extraordinaires où, malgré à cette époque-là, une certaine censure du centre culturel franco-rwandais, c'est écrit tout un livre. En fait, ça veut dire que nous, quand on montait Corps et Voix par l'horizon, qui est une œuvre tirée de textes de Rwanda écrits par devoir de mémoire, le centre culturel franco-rwandais nous avait été fermé. Et on a dû répéter pour la première au centre islamique libyen. C'est pour vous dire ce que c'est que finalement la censure. C'était assez, particulier du fait que pendant les répétitions, en fait, à chaque fois on devait arrêter quand c'était 18h pour que les musulmans du coin aillent prier dans ce centre-là sur la scène, et puis ensuite on devait revenir reprendre les répétitions. Non seulement ça, il y a un point important que j'ai envie de noter ici. Le fait que dans la nuit qui suivait la première représentation de ce spectacle-là, une spectatrice, la voix haute, toute émue, mais la gorge serrée de reproches, m'a appelé pour me dire ceci, mot pour mot. Félicitations, monsieur, pour ce spectacle qui raconte vraiment ce qui s'est passé. Mais il y a quand même une chose que vous n'avez pas dite suffisamment, le rôle des Nations Unies dans le génocide. La prochaine fois, tâchez de faire une place plus importante dans la pièce à cet aspect-là du génocide. Je ne la connaissais pas. Je ne savais pas comment elle avait pu se procurer mon téléphone. C'était à minuit qu'elle m'a appelé après le spectacle. J'étais surtout intrigué pour le fait qu'elle ait véritablement bien suivi toute la pièce. Et malgré l'allusion qui était faite au rôle des Nations Unies, avec la vie des gorilles qui était plus importante que celle des humains, elle demeurait ferme qu'il fallait que le spectacle lui-même raconte toutes les étapes du génocide, c'est-à-dire la nécessité d'exiger, en fin de compte, que même par rapport à ce qui est la représentation qu'on en fait, que ces représentations-là soient véritablement le plus proche de la réalité. Et on a eu souvent des émeutes à l'entrée des théâtres, ce qui était intéressant, surtout quand j'avais monté la journée d'un condamné de Victor Hugo, où il s'agissait de la peine de mort. Il y avait des groupes qui s'affrontaient au niveau de la rhétorique, des groupes qui voulaient que la pièce passe, d'autres non. Je devais répondre au fait que je participais ou non de la vision de la peine de mort ou pas, etc. Mais tout cela participait, et c'est important de le préciser, à un débat qui avait lieu au plan politique, et l'art, pour nous, servait véritablement à participer à cette reconstruction à ce niveau-là. Et puis briser les cadres d'amalgame victime-bourreau. Ici, dans nos ateliers, dans nos représentations, on y retrouvait tout le monde. Je crois que l'art réunit. Voilà. J'ai écrit aussi La Phalène des collines, que beaucoup d'entre vous connaissent. J'ai été véritablement ému quand Alexandre, qui je crois qu'il est sorti, m'a dit, je le connais depuis très très longtemps, je ne l'avais jamais vu, donc c'est vraiment l'occasion ici de le rencontrer, je vous en remercie. Alexandre, quand il m'a rencontré là, il m'a dit, mais je travaille sur la thématique du Rwanda parce que j'ai lu La Phalène des collines. Il connaissait un de mes textes sur le sida, et quand il a vu que La Phalène des collines, j'en étais l'auteur, il l'a lu, et je crois que c'est un témoignage assez important du fait que finalement ces œuvres-là que l'on produit, quelle que soit leur réussite au plan stylistique, esthétique, ou je crois que tout à l'heure un des camarades parlait de l'esthétique et de ce qui est intéressant, c'est un sujet aussi sur lequel je travaille. Je crois que quel que soit ce qu'on réussit avec ces œuvres artistiques ou littéraires, ce que d'autres appelleraient des documents de culture et qui pourraient peut-être situer dans le cadre de documents de barbarie quand il s'agit d'un sujet aussi grave que cela, je crois qu'ils font rhizome. Et c'est cela le plus important, que l'on s'en saisisse et qu'ils soient eux aussi des petits cailloux comme ça, des jalons sur nos chemins, et qu'ils nous nourrissent et qu'ils aident à comprendre davantage ce qui est passé. Parce que pour moi, le génocide, ce n'est ni de l'inexplicable, ni de l'inénarrable, ni de l'indicible. Je crois que ça s'explique venant d'une histoire. Et il est important aussi que sur cela, des choses de façon rationnelle puissent être dites. Je continue mon travail par rapport à cette mémoire-là, parce qu'il me semble important de continuer à exercer en tant que tiers médiant, puisque c'est ce qui enracine finalement la légitimité de ma pratique artistique ou littéraire. Nous, les écrivains africains qui utilisons la langue du colonisateur, nous n'avons pas du tout de légitimité par rapport à cela. On est écrivain d'une langue, de sa langue. Le faisant de cette façon-là, on vit cette schizophrénie totale. Ce qui peut nous légitimer, c'est pour le moins d'utiliser cette langue-là pour avoir une utilité sociale, politique et idéologique. Voilà ce que j'ai à raconter. On continue par rapport à mon petit centre culturel que j'ai ouvert au Mexique depuis 11 ans à travailler sur cette mémoire-là. Chaque année, en avril, il y a un séminaire qui est organisé au centre. À l'université où je travaille, chaque année, il y a 3 jours qui sont organisés en avril sur le Rwanda. Cette année, nous avons aussi utilisé des espaces importants, non seulement l'université, mais pour le Cuibuka 20, nous sommes allés au Sénat, donc 2 jours de réflexion au Sénat. On a eu aussi la chance d'inviter Venuste Kaimae, qui a été en résidence avec nous pendant un moment, pour finir un roman qu'il écrivait sur le Rwanda, et puis une œuvre que nous avons produite de façon commune. Je crois que Catherine y participe, Boris également, sur la Memoria en Camino, la mémoire en chemin, et qui regroupe 12 textes de chercheurs sur la problématique, et qui est une œuvre produite, traduite en espagnol. Je crois que c'est important que sur ces zones-là, qui n'ont pas directement accès ni au français ni à l'anglais, parce que la majorité des livres qui sont écrits sur la thématique sont écrits dans ces langues-là. Donc, ce livre-là que nous avons fait, il est distribué dans toutes les bibliothèques, dans les universités au Mexique, et puis ça sert de lien. Voilà, je crois que moi, particulièrement, ça m'a fait d'avoir participé à Rwanda, écrit par devoir de mémoire, et d'être resté 4 ans plus tard au Rwanda, où je reviens assez souvent, au moins une fois toutes les 2 années. Je crois que ça m'a fait changer de perception, justement par rapport à ce territoire de pensée qu'est la langue. C'est d'une importance capitale. Et puis surtout, sur le plan de mon travail personnel, artistique et littéraire, je crois que ça m'a amené à une réflexion sur l'épistémé africaine, c'est-à-dire comment nous-mêmes, en tant qu'Africains, c'est pas pour constituer des ghettos, mais comment nous-mêmes pouvons nous faire des incursions dans nos traditions pour trouver les formes du dire qui conviennent à ce que nous avons envie de dire et qui puissent légitimer les démarches que nous avons à proposer au monde. Je ne suis pas partisan de la littérature monde, je crois que c'est une aberration, il ne faut pas mondialiser la littérature. Il faut l'enraciner, chacun dans sa terre. Je suis un poète champêtre, donc c'est tout ce qui m'émeut, qui me meut également. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion que je mène depuis un certain temps sur cette épistémologie africaine à recréer, pour éviter aussi que nos œuvres ne soient analysées ou critiquées que du point de vue eurocentriste, avec des canons de lecture qui parfois ne nous correspondent pas du tout. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis allé un peu plus loin que les 10 minutes.
Mais c'était avec bonheur.
Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire.
Alors, donc, je vais laisser la parole à Bruce Clark, présent.
Bonjour. On n'a que 10 minutes, j'ai bien compris. Donc, j'allais évoquer deux projets majeurs que j'avais menés au Rwanda. Donc, Virginie en a fait allusion au début, le jardin de la mémoire. Mais je vais commencer avec le deuxième projet qui s'appelle Les Hommes debout, qui était un projet conçu et réalisé pour le 20e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda et pour ailleurs dans le monde. Et je souligne le deuxième point. Mais juste avant de vous décrire ces projets, je voulais expliquer un petit peu pourquoi et comment je suis rentré dans le Rwanda. Et c'est d'une certaine manière, en fait, j'étais très impliqué dans les questions rwandaises depuis bien avant le génocide. Je suis d'origine sud-africaine par mes parents et j'étais très impliqué dans la lutte anti-apartheid. Et à un certain moment, il y a eu au moins des parallèles dans les dates, dans les évolutions des deux situations, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Et ça a commencé en 90 avec la libération de Mandela en Afrique du Sud et 90 avec le début de, avec l'invasion du nord du Rwanda par la FPR, le début d'une guerre civile qui aurait pu aboutir à une certaine paix, mais qui a abouti dans un génocide pour, comme vous le savez bien. Et c'était peut-être d'une certaine manière grâce au milieu militant contre le régime en apartheid et pour soutenir le processus démocratique en Afrique du Sud que je me suis intéressé au Rwanda où on voyait justement dès 90 on pourrait dire les derniers actes du dernier acte d'un génocide programmé et planifié. Donc, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à cette situation qui déroulait en parallèle avec la situation en Afrique du Sud. Mais je suis ici en tant que plasticien, parce que donc, je suis artiste plasticien, ça veut dire que je fais de la peinture, grosso modo. Si on a le temps, après, on va parler du Jardin de la mémoire, un projet réalisé au Rwanda qui n'est pas un projet pictural, mais... Pour 2014, pour la commémoration de 2014, on m'a pas vraiment demandé, on m'a suggéré que je pouvais faire une proposition visuelle pour la commémoration. Et bien sûr, quand on parle visuel par rapport au génocide, par rapport au massacre au Rwanda, là, ça nous laisse un petit peu bouche bée, je pourrais dire, parce qu'il n'y a pas de... visuel qui correspond à cette réalité. Mais en même temps, sans visuel, on a besoin, y a rien, grosso modo. Donc pour moi, le défi était de trouver un visuel qui pouvait correspondre à une certaine valeur, à la fois pour ancrer le mémoire dans l'histoire des Rwandais et de la communauté internationale, et je ne dirais pas que je cherche une image positive, mais je voulais une image qui n'était pas misérabiliste et qui pouvait justement peut-être redonner de l'espoir, redonner de la dignité, redonner de l'humanité aux victimes. Je dis ça parce que, au fait, quand j'ai commencé à rechercher des visuels qui pouvaient correspondre à la 20e commémoration, j'ai pris comme contre-pied ce que c'est que le projet génocidaire dans un premier temps. Et le projet génocidaire, oui, comme on sait bien, c'est la volonté d'éliminer une partie de la population. Mais ce n'est que ça. Il y a toujours un avant du génocide. Et cet avant, c'est la planification idéologique. Et une partie de cette planification idéologique, c'est la déshumanisation de l'autre. Le processus d'enlever son humanité propre pour faciliter la tuerie après. Et donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux donner visuellement? Et donc, ce n'était, même si c'est dérisoire, ce n'était que redonner une certaine humanité, une visualisation de l'humanité des personnages, des personnes qui étaient tuées, les victimes réelles et métaphoriques du génocide des Tutsis. Et une deuxième volet de ce projet était de dire, mais à quoi ça peut servir de donner des images aussi? Est-ce que ce sont des images éphémères? Est-ce que c'est des images permanentes? Où est-ce qu'on va faire ces images? Et la proposition que j'ai faite à un certain nombre de partenaires rwandais était de mettre ces images, réaliser ces images en collaboration avec des artistes rwandais sur les sites même de massacre. Et ceci pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des lieux de mémoire au Rwanda et il y a des lieux de massacre. Et je fais la différence entre ces deux choses. Souvent, c'est la même chose, mais parfois, ce n'est pas la même chose. Je m'explique. Pour moi, un lieu de massacre, c'est un lieu où un massacre a eu lieu et où maintenant, il n'y a plus rien qui rappelle ce massacre. Je pense en particulier à des lieux comme l'église de la Sainte Famille à Kigali. Et donc, je me suis dit que ces images pouvaient marquer, être des marqueurs, littéralement, des lieux de massacre pour dire, ici, c'est passé quelque chose. Les images en elles-mêmes sont assez simples. Le projet était de peindre des personnages, des hommes, des femmes, des enfants, debout, dignes, beaucoup plus grandes que nature, qui, comme je disais, marquent les lieux et qui rappellent l'humanité et la dignité des rescapés du génocide. Et quand je dis des rescapés du génocide, j'inclus là-dedans l'ensemble de la population rwandaise et au-delà, puisque génocide est par définition un crime contre l'humanité. Donc même les gens qui n'étaient pas touchés dans leur chair sont aussi d'une certaine manière des rescapés du génocide. C'était un des événements politiques majeurs du XXe siècle. Et donc on ne peut pas rester indemne après le génocide des Tutsis. Je vais juste vous montrer rapidement quelques images. Dans un premier temps, on voit des photomontages. Donc, c'est les propositions de photomontages sur les lieux de... ici, c'est des lieux de mémoire aussi. Ça, c'est Murambi, l'école technique de Murambi, où on a déjà vu des photos de l'intérieur. Ici, c'est une proposition pour l'église de la Sainte Famille, qui est littéralement au cœur de Kigali. Je vais assez vite. Bon, donc, c'est l'église de Ramagana qui est toujours dans l'état. C'est des photomontages que j'ai fait. Et il n'y a aucune signe, souvent dans ces lieux de massacre, de ce que se passe à l'intérieur. Donc, c'est un projet qui... Donc, comme vous avez vu, était destiné au Rwanda. Mais comme je disais tout à l'heure, en tant que crime contre l'humanité, on s'est dit, parce que je l'ai réalisé en partie, non pas tout seul, mais avec un collectif qu'on a créé en Suisse, on fait basé à Lausanne en Suisse, avec des amis rwandais, européens, on a monté un collectif pour gérer le projet. Et dès le départ du projet, on s'est dit que, certes, c'est un projet, un acte de mémoire pour le Rwanda. Mais au-delà de ça, c'est un rappel que c'est un crime contre l'humanité et donc ça nous concerne tous. Donc, on a voulu mettre ce projet au centre des actes de commémoration un petit peu partout dans le monde au cours de l'année 2014. Donc, on s'est dit que même si l'intention c'est de faire quelque chose de pérenne au Rwanda, on peut organiser des expositions temporaire ou d'autres propositions visuelles pour marquer les commémorations. Et donc finalement, maintenant ce n'est plus les photomontages que je vous montre, c'est les réalisations in situ. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi la première réalisation a été faite au Bénin sur la route des esclaves, et je ne vais pas... J'avais aucune intention de mélanger des choses, de dire que l'esclavage au Bénin, en Afrique de l'Ouest, est la même chose que le génocide des Tutsis au Rwanda. Il n'y avait aucune intention là-dedans. Quand l'UNESCO a soutenu ce projet, on a bien précisé le pourquoi et le comment. Et c'était justement pour partager une mémoire, partager une mémoire douloureuse d'une part et d'autre d'Afrique. Ce n'était pas pour mélanger des choses. Le projet est devenu un symbole dans un certain nombre de lieux. Ici en France, à Bègle, où on est inauguré il y a un an, presque jour pour jour, le premier homme debout sur un lieu. Mais moi, c'était une volonté d'une association corée basée à Bègle et de la mairie de Bègle, Noël Amamère, qui sentait le besoin d'avoir des lieux de mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, mais en France, pour qu'on puisse dire que nous aussi, on est au moins solidaires avec le mémoire. Et c'est encore à Bègle. Et puis, ça a donné lieu à beaucoup d'expositions temporaires, un petit peu partout en Europe et pas seulement en Europe. Ici, c'est au Luxembourg. Des expositions et des cérémonies de recueillement. Parce qu'on voulait, on a voulu substituer un petit peu aux commémorations plus traditionnelles où on fait des veillées le soir du 7 avril. On s'est dit, mais est-ce que ces personnages ne peuvent pas être des sortes d'icônes pour une veillée, pour rassembler d'abord la communauté rwandaise, mais la communauté autour de la communauté rwandaise, pour se recueillir en mémoire des victimes au moment des commémorations officielles. Et donc, encore au Luxembourg. Et dans notre volonté de présenter ces images, ces expositions, on s'est dit qu'il faut mettre ça dans les lieux les plus emblématiques et parfois significatifs de parfois... Par exemple, le rôle de l'Église ou un petit peu plus loin, le rôle de la communauté internationale. On s'est dit que quand même, même si les images en elles-mêmes ne sont pas agressives, c'est des images tremplin pour passer du plastique au politique. Et c'était ça l'intention dès le départ. C'était d'utiliser les images, j'allais dire comme prétexte, mais ce n'est pas un prétexte, c'est une raison d'être presque pour moi. Mais la volonté était... de dire ces images apparemment neutres peuvent poser questions et peuvent être un tremplin. Et je pense que pour moi, c'est le rôle réel de l'art, de ne pas rester neutre face à une situation, mais dire qu'on a quelque chose à dire, tout en reconnaissant la limite de l'image. Parce qu'une image n'explique pas l'histoire, une image n'est pas un acte journalistique non plus, mais tant qu'une image plastique pas d'une proposition concrète et bien informée, je pense que l'art peut influer sur la réflexion sur le monde et c'est même l'objectif. Je vais aller rapidement parce que j'ai vu le petit papier qui est là. Et donc, je voulais juste aussi souligner, parce que bon, tout à l'heure, certains d'entre nous vont voir la pièce du groupe OFF à Saint-Ouen, le contact de BCCRO. Et on a eu beaucoup de partenaires dans ce projet, parce que c'était un projet, comme je voulais dire, qui était d'abord personnel, mais qui n'a pu être mené à bout que grâce à un soutien collectif. D'abord par le collectif qu'on a créé en Suisse pour mener le projet, et après par beaucoup de partenaires qui sont qui sont associés à nous pour nous amener à bien le projet, en particulier le groupe OFF, où les hommes debout ont accompagné un certain nombre de présentations de la pièce ou d'autres interventions de la pièce ici à Bruxelles, aux Beaux-Arts. Et à un certain moment, et là aussi je remercie beaucoup le groupe OFF, parce que dans certains lieux, comme par exemple la Grande Place de Bruxelles, c'est le groupe OFF qui a pris en main la proposition visuelle sans que ça soit associé à la présentation de la pièce. Ici à l'UNESCO, c'était au centre de la commémoration officielle avec l'ambassade du Rwanda à Paris et Bouka, bien sûr, qui était associé dès le départ avec le projet. Et donc, grosso modo, notre objectif était d'être le plus visible et de poser questions. Je termine ici sur... c'était la première proposition d'une présentation et c'était devant les Nations Unies sur la place des Nations à Genève. Et donc là aussi, ce n'était pas pour dire qu'est-ce que vous avez fait, mais à un certain moment, les questions étaient posées. Quel était votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Etc. Tout en essayant de rester dans les limites du possible, du questionnement d'une œuvre artistique. Et enfin, je termine avec une ou deux autres images. Ah oui, bien sûr, enfin, j'oublie l'essentiel quand même, c'est la présentation de ce projet à Kigali, au mois d'avril, à la Bibliothèque nationale, Kigali Library Services, ce printemps, entre avril et juin. Voilà, je vous remercie.
Boubacar Boris Diop, donc à présent.
Okay, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi je vais vraiment essayer d'aller très très vite pour vous dire quelques mots sur notre projet 16 ans après, puisque ça a démarré en 1998. Il y a quelques mois, un texte de Théogène Karabayinga a été publié dans La Nuit rwandaise. En français, mais il avait été déjà publié en espagnol dans l'ouvrage que vient de mentionner Koulsi. Et il rappelle que le projet Rwanda, écrit par Devoir de mémoire, est né de l'assassinat légal par la dictature nigériane de l'écrivain Ken Saro-Wiwa et de 8 de ses compagnons, parodie de procès, etc. Et puis, nous sommes à Lille pour ce festival. Ça nous choque énormément, d'autant que le Nigeria est le pays du prix Nobel de littérature, Wole Soyinka. Donc, c'est de là que part cette démarche. Et dès le départ, nous sommes des écrivains. Nous sommes censés aller au Rwanda pour écrire des romans ou de la poésie. Mais en fait, la démarche est fondamentalement politique. Et c'est en ce sens que ce projet est, pour moi, un événement fondateur, une leçon d'histoire. Et ce que ça me permet de faire, c'est d'affiner ma réflexion sur ce que j'appellerai notre rapport à l'Occident. Parce que quand vous réfléchissez sur le Rwanda, à tous les détours, vous retrouvez cela. Et aujourd'hui encore, lorsque j'entends certaines choses, je me dis, bon, voilà, même dans cette confrérie-là que vient de mentionner Koulsi, les malentendus continuent à faire florès. Hein. Par exemple, sur l'opinion qu'on peut avoir du régime de Paul Kagame. Mais ça, c'est une autre histoire. L'Occident et nous, mais surtout, ça permet à quelqu'un comme moi, qui suis idéologiquement un enfant de la guerre froide, en quelque sorte, dans un pays où a été créé le premier parti communiste en Afrique au sud du Sahara, en 1957, où tout le monde était soit maoïste, on se réclamait de la quatrième internationale, on était dans tout ça, tout le monde était anti-impérialiste, parce que nous avions lu ça dans les livres. C'était quelque chose de très abstrait. Et d'aller au Rwanda, ça permet d'approcher une certaine réalité de plus près, de resserrer l'angle de tir. Et moi, je cesse de parler de l'impérialisme pour me focaliser sur quelque chose de très, très précis, de très documenté, que je ne vais pas chercher dans des bouquins lointains, mais c'est la France-Afrique, quoi. Voilà, je passe je redescends sur... Ça, je le dois au Rwanda. Sans cela, je n'aurais pas écrit avec Verschave et Odile Topner « Négrophobie ». Je n'aurais pas participé et même beaucoup contribué à l'écriture de la réponse à Sarkozy. Et je n'aurais pas publié en janvier dernier « La gloire des imposteurs » avec Aminata Draman Traoré. Et c'est une connexion au monde. Lorsque je suis... Moi, je ne, on n'est plus, Marie-Violaine Brincard vient de le dire, avant et après le Rwanda. Intellectuellement aussi, c'est vrai. Lorsque je regarde toutes ces images sur la guerre contre le terrorisme, sur la BBC, machin, en réalité, la question que je me pose, c'est toujours, est-ce que ce que ces gens racontent est si simple? Voilà. Plus rien ne vous paraît simple lorsque vous avez essayé de cheminer dans les méandres du Rwanda. Mais c'est aussi une opération. Avoir été au Rwanda, ça m'a permis aussi un certain retour à moi-même. Comment ? Par une prise en compte plus résolue de la question de la culture et par même, finalement, le regard. Oui, c'est ça. Ça, je m'arrête un peu quand même. Voilà, je dis toujours, et malheureusement, on n'aura pas le temps d'en débattre, si je n'avais pas été au Rwanda, je ne me serais pas retrouvé... Ça m'a permis de réaliser un rêve, c'est-à-dire de faire de la littérature dans ma langue maternelle. Ça, c'est venu du Rwanda. Et si aujourd'hui, j'enseigne, j'ai choisi d'enseigner à l'université Gaston-Berger la langue et la littérature wolof, ce que personne n'a jamais fait chez nous, c'est tout à fait... un début, et ça, maintenant, ça va se généraliser, semble-t-il. Eh bien, c'est parce que j'ai été au Rwanda. Donc, prise en compte de la question culturelle, parce que la tragédie rwandaise, c'est non seulement une tragédie culturelle, un pays né de l'imaginaire des autres, de leurs fantasmes, et puis aussi, lorsque je... La lecture des événements dans mon propre pays me permet aussi de dire que je comprends mieux le Sénégal grâce au Rwanda. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte à l'extérieur. Il y a une profonde coupure au Sénégal entre la culture et la religion. Et chaque fois que je prends la parole au pays, je dis aux gens, écoutez, j'ai vu quelque chose de semblable, le scénario rwandais. Et maintenant, pour en venir au plan strictement littéraire, je crois que nous tous, nous pouvons dire, nous qui avons été au Rwanda, que cette expérience a eu des effets sur notre façon d'écrire. Un roman comme le mien, Kavena, évidemment, voilà, le récit se déploie autour... d'un corps en décomposition, tout le récit. Et plus tard, j'ai compris que de manière inconsciente, parce que finalement, les textes de fiction, ils viennent par derrière. On ne dit pas « je vais écrire ça parce que j'ai été au Rwanda ». On se rend compte plus tard qu'on l'a écrit parce qu'on a été au Rwanda. Et quelqu'un comme Waberi, qui était dans notre groupe, il le dit lui-même, je n'aurais pas écrit Passage des larmes, texte dominé par la figure de Walter Benjamin, si je n'avais pas été au Rwanda. Et l'expérience elle-même, ça a été quoi? Pour refaire un petit jeu, une petite paraphrase facile, je le concède. On a été 10 auteurs en quête de personnages, finalement. Et je pense que ça... on avait affaire à des gens qui étaient là, c'était des personnes bien vivantes qui avaient leur demande, Koulsi vient de le rappeler, qui nous interdisait d'ailleurs formellement d'écrire des romans. Et cette demande, le désir qu'ils avaient qu'on remette tout, quoi, qu'on refasse la chronologie des événements, c'était évidemment pour faire honte aux autres de leur silence, mais aussi peut-être quelque part de manière profonde et plus inconsciente, le désir d'un rebours du temps, de faire revenir le temps que, à la limite même de manière purement fantasmée, on puisse échapper aux machettes et sauver les siens. Voilà. Recréer la réalité pour que les rescapés en fassent un usage de vie en quelque sorte. Les textes sont là. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y avait eu que 9 textes, mais un séjour en Allemagne la semaine dernière m'a permis d'apprendre de la part d'une prof que le texte de Medjamwangi, a été en fait publié, non pas sous le titre Great Sadness, sous lequel on l'avait, toujours annoncé, mais en fait The Big Chiefs. Et donc le corpus littéraire, est, il l'a publié en 2007 hein, chez Macmillan. Le corpus est complet et puis il a le mérite de continuer à alimenter le débat. On peut continuer à discuter du génocide dans les écoles ou ailleurs à partir de cela. Ça n'a pas été rien. Nous n'avons pas pu ressusciter les morts, mais ça n'a pas été rien de rappeler les souffrances des bourreaux, de des victimes, de stigmatiser les bourreaux, et puis de donner un visage plus humain aux victimes elles-mêmes. Voilà, je fais toujours un petit rapprochement entre remembrer les corps sortis du charnier et le verbe anglais to remember. Le devoir de mémoire, c'est aussi ça, la remise en place, quoi. Voilà, la réarticulation. Et en 98, nous avons ouvert la voie. Je pense que l'intérêt pour le Rwanda aurait été le même, voilà, ou pas, j'en sais rien, sans notre initiative. Mais ce qui se passe, c'est que quand nous, en 98, nous allons au Rwanda, le sujet, le moins qu'on puisse dire, dans le champ public, n'est pas très, très tendance. Après, les films ont suivi, il y a eu des romans, le travail remarquable vraiment de Bruce, et voilà. Donc, ce rôle a été important, mais en même temps, comme dit l'autre, il ne faut pas chanter victoire hors de saison, nous le savons tous ici, parce que en juin 2013, dans un document destiné aux enseignants par la CNED, on lit, voilà, quelque chose sur le massacre des Hutus par les Tutsis, même si, évidemment, l'erreur monumentale a été corrigée. En fait, voilà, il y a cette tendance-là, elle existe. Et puis, évidemment, plus particulièrement, le dernier film de Jane Corbin sur Rwanda, Untold Story, n'importe quoi. Et c'est-à-dire que 20 ans après, malgré toute la production cinématographique, artistique, scientifique surtout, hein, mais les récits des gens qui disent « mais on a vécu ça ». Voilà, c'est tellement visible et spectaculaire. Ben, 20 ans après, il y a un film qui dit, ben voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, pour reprendre le titre du livre de Philippe Pau. Alors, et donc, oui, on est finalement engagé dans le devoir de mémoire, et dans le processus, on est un peu mémorialiste, parce que on convoque tout, quoi, l'histoire, la société, nos romans sont pleins de cela. Et puis, on est gardien de la mémoire. Un travail de gardien de la mémoire qui est d'autant plus, c'est par là que je vais terminer, qui est d'autant plus impérieux que, finalement, un pays africain, c'est là qu'on rencontre quand même, qu'on voit le point de contact entre les stéréotypes racistes et le fait que tant de personnes innocentes aient été tuées au Rwanda. L'ONU a 100 jours pour voir chaque jour 10 000 corps. Pendant 100 jours, l'ONU n'en est pas capable, parce que l'idée la plus répandue, y compris en Afrique, nous le savons tous, je n'insiste pas là-dessus, ben c'est que ça, l'Afrique, ça se tape dessus, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais de la même manière, de la même manière qu'on n'a pas pu voir les corps en 1994, mais de la même manière, en fait, le racisme qui chemine avec le négationnisme, mais ça fonctionne à partir de cette idée-là. C'est cette idée-là, elle n'est pas morte. Et évidemment, puisqu'il s'agit d'un petit pays qui compte pas, vous savez, le Sénégal, le Tchad, le Rwanda, mais c'est quoi ? Mais c'est rien du tout. La BBC, elle peut faire un documentaire sur ça, ça n'aura aucune conséquence. Et moi, ce film, c'est comme ça que je l'ai reçu. Je terminerai maintenant en disant que ce qui me frappe le plus, et qui est aussi un motif d'espoir, c'est que lorsque vous prenez la production sur le Rwanda, je ne peux pas parler des autres, faute de temps peut-être, c'est que finalement, c'est surtout le négationnisme trouve sa niche dans la production scientifique, les sciences sociales, etc. Mais quand on en vient à la fiction, à la production littéraire, quand on en vient aussi aux films de fiction, c'est très, très difficile de trouver... il faudrait s'interroger sur ça, quoi, de trouver des films qui fassent l'apologie des bourreaux, qui crachent sur les victimes, comme le font certains films documentaires, comme le font certains auteurs de différents pays que tous nous connaissons et je pense très souvent méprisons ici. Ben voilà. Mais quand il s'agit de la fiction, il y a comme une espèce d'appel du cœur qui fait que c'est la compassion qui domine et on prend plus aisément le parti des victimes en refoulant les bourreaux dans les ténèbres de l'histoire dont ils n'auraient jamais dû sortir. Je vous remercie. Voilà.
Donc, Catherine Cocchio.
Moi, merci. Je vais d'abord remettre ma casquette d'organisatrice pour vous rappeler, sinon je vais absolument l'oublier, qu'il reste une vingtaine de places, c'est ça Christiane, ce soir à l'espace 89 pour le spectacle du groupe OFF et qu'il en reste encore beaucoup demain soir à la même heure, 20h. Alors cette casquette d'organisatrice en fait me donne envie de ne pas du tout parler parce que je pense qu'il faut absolument qu'on donne la parole à Patrick Saint-Exupéry tout à l'heure, dans 10 minutes hein, vraiment. Mais je vais quand même essayer de vous dire un tout petit mot, parce que, en effet, moi, je suis aussi très, très émue d'être là dans cette table ronde. Je suis contente que Boris ait évoqué Théogène Karabayinga, qui était là, justement, en 2000. Moi, je n'étais pas en 98, évidemment, je n'étais pas invitée en tant qu'auteur, mais je suis venue en tant que chercheuse, lorsque vous vous êtes retrouvée en 2000. Hein. Et je voulais juste rappeler qu'il y avait un autre écrivain parmi vous qui s'est ajouté, comme Jean-Luc Raharimanana. Il y avait Eugène Ebaudet, donc d'origine camerounaise, qui donc était là-bas aussi et qui a tout récemment publié un livre qui s'appelle « Souveraine magnifique », un roman publié chez Gallimard. Et ça montre que ça travaille. En effet, je pense que pour chacun, il y a eu un avant et un après Rwanda, pour moi aussi, bien sûr. Alors, moi, j'ai évidemment un autre point de vue qui est le point de vue critique qu'on peut avoir sur une littérature occidentale. Coulcy disait tout à l'heure, la mondialisation littéraire, ça signifie rien, ou la littérature n'a pas à se mondialiser. Et au fond, ce dont je voudrais quand même dire un mot, c'est en effet cette mondialisation de la littérature, et je dirais même mondialisation de la mémoire, dans la littérature, peut poser certains problèmes que je pourrais, au fond, identifier sous le terme d'africanisme littéraire. Jean-Pierre Chrétien, hier, disait qu'il n'aimait pas le mot africanisme. Et je crois qu'il y a un phénomène terrible, dans l'africanisme, qui traverse les sciences humaines, mais qui traverse aussi ou qui peut traverser la littérature. Alors, je voudrais en dire un petit mot à travers deux ouvrages qui ont paru récemment. Paru récemment, tout récemment en France, hein, 2010 et 2009, l'un d'un journaliste polonais, Wojciech Stochman, T-O-C-H-M-A-N, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, hein, ça peut être en français, « Aujourd'hui, nous allons dessiner la mort, retour au Rwanda », donc paru en France là cette année, et en Pologne en 2010. Et l'autre, c'est un écrivain suisse-allemand, Lukas Berfus, auteur de « 100 jours, 100 nuits », paru donc en France en 2009, un an après sa parution en Allemagne, sous le titre de « 100 Tag »,« 100 jours », roman. Donc dans ces deux livres, le génocide au Rwanda est évoqué 15 ans après par un auteur européen d'une même génération, hein, Tormann, le Polonais, est né à Cracovie en 69, Berfus est né près de Berne en 71, c'est la génération de l'après-guerre froide, là. C'est la génération aussi, c'est les années 2000-2010, c'est-à-dire des années qui sont celles non pas seulement d'un travail de mémoire, mais de ce qu'on peut appeler, à mon avis, en Occident, en Europe, une véritable culture de la mémoire, ce qui est autre chose, je crois, avec ce que ça suppose d'amplification, mais aussi d'autonomisation culturelle de la mémoire. qui pose des problèmes spécifiques, à mon avis. Alors, plus précisément, ces deux livres s'inscrivent sous le signe de ce qu'on appelait aux États-Unis, et c'est des termes qui se sont maintenant acclimatés en France, hein, la post-mémoire, terme de Marianne Hirsch, hein, et de l'autre, la mémoire multidirectionnelle, terme de Michael Rothberg. Donc, deux théories qui sont nées dans les années 90-2000 aux États-Unis. Hein. Post-mémoire désigne la manière dont une génération investit un événement passé sans l'avoir vécu, donc en l'imaginant, hein, par des médiations culturelles, livresques, que cette génération ait hérité de ce passé par sa famille ou qu'elle ait fait sien ce passé par un lien de proximité, d'affinité, de solidarité, comme c'est le cas ici. Et donc la mémoire multidirectionnelle, hein, en gros, oppose au modèle de la concurrence des victimes ou de la guerre des mémoires, hein, un modèle d'interaction, d'articulation des mémoires, qu'incarne ici absolument Thormann, le Polonais, hein, d'une manière au fond hyperbolique. Hein, son livre commence avec le mémorial de Guissosi et s'achève avec le mémorial de l'Holocauste à Berlin. Et il est lui-même, tout le livre est porté par la mémoire polonaise, hein, de l'Holocauste, très clairement, et l'histoire de l'antisémitisme polonais. Donc ces textes montrent les problèmes, à la fois sont très intéressants l'un et l'autre à mon avis, mais ils montrent des problèmes aussi intéressants à penser, importants à réfléchir, je crois, problèmes que peuvent engendrer ces rapports contemporains culturels à la mémoire, lorsque les effets à la fois du post et du multi convergent pour produire un effet de surcharge et parfois même d'écran. À mon avis, c'est le cas ici. Alors, ces auteurs, je peux pratiquement rien en dire. Hein. Ils ont chacun le vent en poupe en Europe. Hein. Lucas Berfus, c'est vraiment l'enfant chéri du théâtre suisse-allemand. Il est multiprimé. Il est traduit en France en partie par Bruno Bayen. Hein. Bon, je n'ai pas le temps d'en dire davantage. C'est quelqu'un qui se rattache à une filiation germanique et nordique, d'un certain pessimisme, hein, je crois, mais aussi d'un engagement politique. Ses références, c'est à la fois Brecht, Lars von Trier et Sophocle. Thormann, c'est un reporter très fameux en Pologne, hein, pour ses contributions à de grands quotidiens. Il a gagné un statut d'auteur pour un essai sur la Bosnie qui a eu un énorme succès et qui a été traduit dans une quinzaine de langues d'abord, déjà, qui s'appelle « Mordre dans la pierre ». Il faisait le portrait là d'un pays, d'une population tout à fait sinistrée par les années de guerre, dans l'après-coup. Hein, et il a fait, au fond, juste après, la même chose pour le Rwanda, hein, 5 ans plus tard, avec un succès mitigé d'ailleurs. Alors, Thormann, c'est d'autre part, c'est l'un héritier de la grande, grande école de reportage littéraire polonaise. C'est l'héritier de Kapuscinski, auteur d'Ébène, aventure africaine, hein, publié en 1998, mais Kapuscinski avait fait l'essentiel de son œuvre à l'ère communiste. Et donc, Thormann est son héritier, hein, un de ses héritiers, hein, tout à fait presque institué, je dirais. Il a fondé l'école polonaise du reportage en 2009, hein, il y a eu un prix Kapuscinski qui d'ailleurs a été donné en 2010, hein, à Hatzfeld, hein, premier lauréat du prix Kapuscinski de 2010. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est un auteur comme Hatzfeld qui est entre le journalisme et le témoignage, hein, ou un certain usage du témoignage. Témoignage alors justement à la polonaise, hein, dans cet après 89 où en Pologne on est dans un travail de mémoire absolument fébrile, où on revient sur les traces des massacres, où on refouille les archives familiales, etc. Hatzfeld qui, par parenthèse, a fait un tabac véritablement en Pologne, hein, qui a été reçu ces dernières années avec un énorme succès. J'ai appris tout à l'heure, Audrey Alves me disait qu'il avait été traduit d'ailleurs en 25 langues, hein, la trilogie, hein, c'est ça. Donc en Pologne, ça a été un très important. Il est d'ailleurs constamment comparé à Thormann, et donc constamment comparé à Hatzfeld, plutôt d'ailleurs au détriment de Thormann en général. Donc ces deux auteurs ont visité le pays et ils ont enquêté, alors qu'ils n'avaient pas d'attache au Rwanda, ils n'y connaissaient rien. Berfus a fait un séjour de plusieurs mois en 2004 et Thormann est allé au Rwanda en 2009. Hein, il a assisté aux commémorations des 15 ans, puis il est revenu l'année suivante et puis son enquête a duré 2 ans. Ils ont en commun, ces deux auteurs, d'avoir enquêté sur une forme de responsabilité ou de compromission de leur pays, Suisse d'un côté, Pologne de l'autre, avec le régime rwandais, hein, qui a mené au génocide, et le système colonial qui a conduit, hein, à la possibilité du génocide. Et ils ont en commun de dénoncer une implication politique en même temps qu'une faute morale, et même à travers eux, une erreur profonde, au fond un fourvoiement de civilisation, je dirais. Implication politique du gouvernement suisse à travers le rôle joué par la direction du développement et de la coopération Rwanda à partir de 1962. J'ai hélas pas le temps de préciser, mais c'est une implication absolument terrible qui passe par la voie financière, économique, technique, politique, hein, vraiment à partir de 1962 déjà. et qui est allé très très loin. Bon, il y a tout le système des banques populaires, il faudrait que je revienne là-dessus, la question du conseiller politique envoyé par la Suisse au président rwandais, mais qui a joué un rôle absolument fondamental auprès d'Abyarimana, puisqu'on parle de lui comme Charles Jeanneret, comme de son éminence grise, bon. Et puis des implications financières monumentales. Faute morale de l'Église catholique pour Thormann à travers le comportement. Il raconte le comportement de la congrégation des prêtres palotins polonais qui présents au Rwanda ont assisté à un massacre, deux massacres même à la suite dans leur paroisse, sans bouger, en prenant soin de sauver le Saint-Sacrement dans l'église de Gikondo à Kigali, tout près de là où séjourne Thormann. Et donc il recoupe des témoignages d'hommes d'église en même temps que de soldats polonais de la Minuar. Et puis il va au-delà, bien sûr, il cite le discours du pape Jean-Paul II en 1990, je résiste pas à la tentation de vous lire un tout petit bout. Il est venu à Kigali en septembre 90, il a eu des formules sur l'Esprit Saint qui a acquis à Jésus-Christ le cœur des Rwandais et qui donne aux jeunes le désir de coopérer dans la bonne entente entre l'Église et l'État. Voilà. Moi, je crois qu'il a été très bien entendu, en un sens. Alors, Thormann revient sur, au-delà, une forme d'obscurantisme, en fait, qui était là présent, et qui continue en partie d'être là dans l'après-génocide. Il raconte en particulier une scène d'exorcisme, et la parole de Nasson, qui est avec nous, vient en contrepoint montrer à l'œuvre cet exorcisme et à quel point ça répond à un besoin de diable, un besoin donc de dérationaliser tout ce qui s'est passé, bien sûr, et aussi donc de politiser. Bon, et qui intervient, bien sûr, qui arrive là dans une longue tradition de présence de l'Église, présence très importante de l'Église catholique au Rwanda. Donc, ils ont en commun aussi de mêler à leur enquête une écriture littéraire qui accorde une place centrale à la représentation du corps, et particulièrement du corps féminin, et de traiter d'une manière très crue ou très corrosive des questions de sexe et de genre. C'est ça, en fait, que je voudrais interroger. Chez Berfus, la critique politique est prise dans la fiction d'une relation amoureuse, ou disons plutôt libidineuse, parce qu'il comprend à la fin qu'il ne l'aime pas. C'est David Hall, un jeune employé de la coopération suisse, et qui entretient avec une jolie femme Hutu, Agathe, apparemment occidentalisée après un séjour en Belgique. Il va se politiser à outrance, cette Agathe, au point de prendre une part très active dans la propagande raciale et l'encouragement des massacres. Et donc, lui, il tombe de plus en plus amoureux d'elle. Il ne se détache pas du tout d'elle à ce moment-là. Tout au contraire, ce jeune Don Quichotte de l'aide au développement et de l'antiracisme, médusé par la métamorphose de cette femme, s'aliène à elle tout en la méprisant et tout en étant pris par ailleurs dans l'engrenage que supposait sa fonction, c'est-à-dire que protégé par les miliciens en tant que Suisse, il choisit de les suivre dans les camps de réfugiés au Zaïre. Il retrouve Agathe, d'ailleurs, qui meurt sous ses yeux du choléra, mort qu'il vit comme une dernière moquerie d'Agathe, puisque sa relation à elle n'était faite que d'illusions, d'humiliation, de honte, précisément. Et donc la montée de la violence génocidaire est racontée constamment à travers le prisme d'une passion sexuelle qui, dès le début, se rembringue mal, qui tourne à la déconfiture du héros. Et l'histoire d'amour, comme l'histoire tout court, défend le héros de ses illusions, mais sans produire de réveil moral ni de dégagement politique. Il était resté au Rwanda pour elle. Une fois qu'elle est morte, il retourne en Suisse, comme elle le lui avait prédit dès le départ. Et en revenant en Suisse, il revient au pays des innocents aux mains propres, comme il le dit. Et là, il raconte son histoire au narrateur premier du roman, qui recueille ce récit de David et qui fait le portrait d'un homme vidé, prématurément brisé par sa propre veulerie. Oui, je sais, Virginie. Voilà, donc... deux ou une ou trois minutes, je veux dire. Alors, en fait, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sont des livres, à mon avis, très intéressants et forts, en un sens, pour des raisons différentes, mais j'y vois s'exprimer quelque chose, que j'appellerais volontiers écriture de la honte, une écriture de la honte spécifiquement européenne, qui s'écrit dans le double registre politique et sexuel. Parce que ce qui se passe chez Thormann, c'est quand même aussi beaucoup de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des viols, beaucoup des sévices sexuels qu'ont connus les femmes, à un point, à mon avis, qui tourne à quelque chose de complaisant, ou en tout cas de problématique pour la réception, sans doute, du livre au Rwanda. Et pour moi, ça pose un énorme problème que de construire un livre de cette manière-là. Donc la honte, le corps féminin devient le catalyseur de ce sentiment de la honte, avec un effet de brouillage, en fait, hein, de l'effet de véridiction politique, hein, de l'enquête qu'ont menée ces hommes dans les deux cas, hein, et de ce qui se passe autour du corps féminin désiré d'un côté, fantasmé, mais aussi supplicié, et aussi fantasmé lorsqu'il est supplicié, je dirais. Et donc je m'interroge sur ce creuset que semble être ce sentiment de honte, hein, où s'imbrique une conscience historique et politique et une obsession du corps féminin comme corps de l'autre, désirable d'un côté, supplicié de l'autre. Voilà, j'ai envie de vous dire pour conclure, hein, je vais tout de suite aller conclure avec une phrase d'un écrivain français qui s'appelle Camille de Toledo, qui a écrit en 2012 un livre qui s'appelle « L'inquiétude d'être au monde ». Et voilà ce qu'il dit. « Voilà où nous en sommes après le XXe siècle. L'Europe se flatte d'avoir honte. Elle s'en flatte tant qu'elle s'indigne de ne pouvoir, encore une fois, universaliser sa honte. »
Alors, il est logiquement l'heure de passer la parole à François Robinet et Patrick de Saint-Exupéry, comme on a commencé un petit peu en retard, on va prendre quand même, ou pas, oui, on va prendre quelques minutes d'échange avec des questions, s'il vous plaît, très ciblées, très précises, très synthétiques. Il y a, voilà, là-bas.
Bonjour. Ah, ça marche pas. Bonjour. Ah, pardon. voilà, je m'appelle Florence Rasmon, je fais une thèse en histoire contemporaine à Bruxelles. Et j'ai une question pour Monsieur Clark. J'ai bien vu les hommes debout à Kigali en avril, et puis les mois qui ont suivi, je pense qu'ils sont restés quelques temps, si je me rappelle bien. Mais je me rappelle d'en avoir vu à la Public Library et puis au stade à Mauro. Mais je ne crois pas en avoir vu autre part, et je me demandais pourquoi le projet avait évolué par rapport à ce que vous aviez prévu à la base, je pense.
Alors, merci. Voilà. On va prendre quelques questions d'affilée et puis on répondra après. Merci.
Il y a
ici. Juste une interrogation à la direction de Boris. Tu as dit, voilà, quand vous venez au Rwanda en 98, tu considères ça comme une démarche fondamentalement politique. Et je m'interroge si peut-être cette manière de choisir ou alors de penser votre démarche de cette manière ne vous enlève pas d'une certaine manière, parce que une démarche politique s'oppositionne, décide, s'oriente, etc. Je me demandais si ça ne vous enlève pas quelque part cette possibilité de vous mouvoir et de vous émouvoir dans un paysage de liberté qui consiste à ouvrir les portes pour que les autres agissent. Et une deuxième interrogation, et je finis, s'adresse à toi et à Kursi. Dans votre posture de témoin sogo, vous recevez la violence, vous la recevez dans le corps et dans le cœur. Vous en faites quoi? Vous vous en soignez comment pour vous retrouver dans cet espace de liberté? Je serais très intéressée de vous entendre vous exprimer. Merci.
Alors, merci pour ces questions et j'ai envie qu'on s'arrête là parce qu'elles me semblent très transversales des échanges à la fois sur les enjeux politiques et puis sur ce que vous dites, hein, des témoins seconds. Je pense que même si elles sont adressées, elles peuvent concerner tous. Et je propose donc, en vous répondant bien sûr, qu'on assiste tout de suite aux réponses pour gagner du temps, malheureusement.
Très rapidement, mais en fait, la question que vous avez posée, c'est la question essentielle. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était qu'une sorte de préambule pour arriver à l'essentiel. C'est comment ce projet est reçu au Rwanda et où est-ce qu'il va au Rwanda. Et parce que j'ai commencé à dire justement que c'était très bien accueilli quand c'était sur papier. J'ai eu des lettres d'autorisation, de soutien, grosso modo de l'ensemble des institutions qui gèrent la mémoire et des soutiens de la société civile. Quand il s'agissait de mettre ça en pratique, c'est-à-dire réaliser des images pérennes sur les lieux de massacre, ça devient un petit peu plus problématique dans le sens que là, on était confronté avec quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte allait être aussi présent au début, et c'est la lecture de l'image d'une culture à une autre culture. La lecture, l'interprétation, la réception en général de l'image. Et parce que moi, je suis né en Occident, j'ai été éduqué en Occident, j'expose en galerie, en musée, en Occident, et ailleurs dans le monde aussi. Mais là, dans ce projet, il s'agissait de travailler dans le réel et d'amener une image sur les lieux même du massacre. Je me suis rendu compte dès le début que je marchais sur les heures, sinon sur les cadavres, quand j'étais dans une telle démarche. Et les soutiens que j'ai au Rwanda ne se sont pas rendus compte de ce en quoi ils s'engageaient dans un premier temps. Enfin, c'est mon interprétation de ça. Et que, donc, grosso modo, dans les images que j'ai montrées, c'était bien précisé que les premières images étaient des photomontages. Donc, on est arrivé à une sorte de compromis parce que tout le monde voulait montrer ce projet, mais pas d'une manière pérenne, pas tout de suite pour la 20e commémoration. Et donc, le compromis qu'on a fait, mais c'était très bien fait, vous l'avez vu, enfin, moi, j'étais content du résultat, même si c'était légèrement intime. Le compromis qui était fait était de montrer des images temporaires pour que le public rwandais, en particulier le public des rescapés, puisse s'approprier ou apprivoiser les images. Et que là, enfin, je ne dirais pas c'est une erreur mais, de ma part, mais je pense que peut-être il y a eu des expériences semblables avec les écrivains. C'est que tout en étant très respectueux des sensibilités, des susceptibilités, des réalités vécues au Rwanda, on ne peut pas se mettre à la place de ceux qui le reçoivent. Et donc, notre manière de faire n'allait pas être reçue exactement de la même manière. Donc, le projet continue au Rwanda. Et donc, oui, on a toujours espoir à ce que ça sera pérennisé, tel que je l'ai montré tout à l'heure. Mais je dirais juste quelque chose pour conclure. Je sais que je prends beaucoup de temps, mais c'était par rapport aux thématiques de ce table ronde. Et enfin, les questions qui nous étaient posées, nous tous au début, c'est comment ça nous a changé, grosso modo, notre production artistique ou littéraire. Et brièvement, ça nous a changé radicalement, puisque tout ce qu'on a fait, et je pense que je peux parler pour tout le monde, n'est pas un résultat, n'est pas un aboutissement. On était dans un processus et ce processus continue. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel des artistes, mais je dirais aussi un processus pour ceux qui reçoivent ce qu'on fait, c'est-à-dire les Rwandais sur place et d'autres publics ailleurs, c'est qu'on a besoin d'un temps d'apprivoisement des idées, des concepts et d'avoir la mise à plat d'une certaine manière, des manières de représentation de ce que c'est passé. Et personne n'a les réponses, et donc on y va en tâtonnant pour trouver des réponses. C'est pour ça qu'il y a des hésitations pour la suite au Rwanda pour mon projet, mais j'ai bon espoir que ça va aboutir.
Oui, ok. Très rapidement, Nasson. Ça dit que moi, j'ai mon roman qui a précédé Murambi, le livre des ossements, s'intitule Le cavalier et son ombre, et j'y consacre de longs passages au génocide des Tutsis du Rwanda. Je parle et j'ai tout faux, quoi, en quelque sorte. Hein. Je m'en explique d'ailleurs dans la postface à Murambi. Je crois parler du génocide des Tutsis du Rwanda, mais en fait, je suis en train de parler de la cohorte des génocidaires encadrée par Turquoise d'une certaine façon. Et puis, pour moi, c'est eux les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire, mettez-vous quand même à la place d'un auteur parlant de l'occupation à Lyon et puis qui confond allègrement Barbie et Jean Moulin, quoi, qui inverse les rôles. Parce que c'est de ça qu'il s'est agi. Et donc, quand je dis politique, ça ne veut pas dire du tout, je vais mettre des œillères, je vais chercher à rien comprendre. Non, c'est justement le contraire. J'enlève les œillères, j'essaie de voir vraiment aussi large que possible. Et en même temps, c'est quand même un événement qui vous déniaise, si j'ose dire. Je n'accepte plus de me laisser raconter des histoires. Voilà, je passe tout au crible de ma raison. En réalité, quand je parle de politique, ça ne veut pas dire, ben voilà, oui, de façon manichéenne, les bons, les méchants, etc., que je me fais du jour au lendemain l'apôtre du réalisme socialiste. Non, ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Politique, c'est à deux niveaux. D'abord, le texte doit être informé. Il faut être au plus près des faits. Il faut être au plus près de la souffrance des autres, qui, quelque part aussi, a été la mienne. Et en second niveau, et ça, c'est important pour notre groupe, en second niveau, c'est de ne pas faire quelque chose du genre « j'écris et je me tais, écris et tais-toi ». Une fois que le roman est publié, bon, il a un rôle à jouer, sa fonction, ça inscrit dans la durée, ça suscite des débats, etc., avec des étudiants un peu dans le monde entier. Mais au-delà de ça, il y a des prises de parole publiques sur le Rwanda. Donc, il faut rester présent sur la question. Un roman sur le Rwanda, ce n'est pas un roman quelconque. Voilà, on ne peut pas écrire sur le Rwanda. Une fois que le livre est sorti des librairies, on considère qu'on en a fini avec. Et le meilleur exemple, c'est évidemment, nous l'avons entendu tout à l'heure, Kulsi Lamko. Voilà, c'est ça que j'appelle une démarche politique. Ça veut dire aussi ne pas essayer de réinventer la littérature par des métaphores, par des trucs, des jeux de pistes, dessiner des labyrinthes, etc. Essayer de se faire comprendre. Moi, j'ai dit, après avoir écrit Mourambi, que je l'ai écrit pour mon fils Mustapha et pour ses amis. J'ai voulu, ça aussi c'est politique, c'est un choix politique, j'ai voulu que ce soit mon livre le plus accessible à un jeune public. Voilà, donc c'est tout ça. Hein.
Est-ce que vous voulez ajouter autre chose?
Oui, non, je pense que... Non, il avait posé deux questions.
Sur la douleur.
Sur, sur l'aspect politique, tu as dit.
Oui, mais sur la douleur,
Sur la douleur, enfin, je pense que, en fin de compte, hein, nous venons quand même de ce continent là où en 50 ans de prétendue indépendance, il y a eu plus de 50 interventions militaires. En fait. Je crois que le Rwanda, c'était très emblématique pour consacrer cet échec de la rencontre entre l'Afrique et l'Occident de façon globale. Hein. Et, je viens d'un pays, qui, le Tchad, hein, qui... à 50 ans de guerre depuis les indépendances avec une rébellion. Et je crois que le Rwanda, ça nous rappelle le Nigeria, le Libéria, le Darfour, la Libye, la Côte d'Ivoire. C'est tout ça à la fois. Et donc, on ne peut plus dormir, en fait, sur les deux oreilles quand on a vu comment c'est arrivé tout bas, si bas au Rwanda dans ces rapports-là. Ça veut dire qu'un royaume, on a démontré qu'il était possible dans des espaces où les communautés étaient bien organisées, hiérarchisées, avant même la rencontre avec l'Occident, on a démontré qu'il était possible d'y introduire le grain de la discorde et de réussir à nous montrer qu'on n'était rien et qu'on ne pouvait pas savoir s'organiser. Et je crois que la réponse, elle ne peut être que politique, en fait. C'est pas de suivre un régime, c'est pas de... Non, mais c'est comme dit Boris, hein, de comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'être, pour les nouvelles générations, une espèce de relais qui permette qu'ils en aient une certaine conscience. La lutte, elle est du quotidien et on n'en dort pas. Que dire de la douleur? Je pense que la douleur, on la fait sienne et c'est peut-être un moteur à la fin du compte. Et moi, quand j'écrivais La Falaine des collines, c'était, il fallait par ce livre-là me soigner moi-même avant de pouvoir prétendre être un tiers médian auprès des Rwandais avec qui je partageais ma vie en ce moment-là. Et à plusieurs reprises, j'ai failli arrêter. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que quand j'ai failli arrêter en disant que j'écris pendant la nuit, et assez souvent je me vois quand le sommeil arrive, je me vois poursuivi, je deviens une victime poursuivie qui doit se cacher dans les marais, etc. Donc à un moment donné, j'ai dit à Boris, écoute-moi, j'arrête parce que c'est trop dur. Et il m'a dit, tu n'arrêtes pas parce que ce que nous faisons, c'est pour nos morts. C'est pour qu'ils continuent d'exister. Et Soko Faye, qui est quelque part ici, nous a apporté un terme assez révélateur en disant qu'il s'agit de contribuer à construire une sépulture pour les morts. Et je crois que cette sépulture symbolique-là, aucune douleur ne peut évidemment faire en sorte qu'on ne puisse pas s'engager à essayer de la construire.
Merci beaucoup. Donc on va s'arrêter et laisser la place donc aux intervenants suivants.